Aimer, mentir, trahir, ces trois verbes forment donc notre thème de ce jour. Il va de soi que l'on peut aimer sans devoir mentir ni trahir. Il vaudrait mieux même aimer sans recourir ni au mensonge ni à la trahison. D'autant que tout laisse à penser que le concept de l'amour, la positivité qui l'enveloppe, du moins à première vue, exige de poser au plus loin du sentiment amoureux les enjeux de toute évidence négative du mensonge et de la trahison. Mentir, trahir, ce serait le contraire d'aimer, ce serait même la négation. Est-ce si simple, si rapidement tranché? Aragon n'a-t-il pas aimé chanter qu'il n'y a pas d'amour heureux? Les sonnets de Shakespeare ne cherchent-ils pas à nous convaincre, sur un ton le plus souvent élégiaque, que le destin des protagonistes de l'amour et de les exposer inévitablement aux affres du mensonge et de la trahison? Le tissu de l'amour serait-il à tout jamais tissé des fils de l'illusion, de la déception et de la tromperie? La question est énorme, bien sûr, et vieille comme le monde, et c'est peu dire qu'elle occupe la scène de la littérature et de la philosophie depuis que celle-ci existe, mais elle occupe plus encore la vie de tout un chacun, dès l'instant où il vient au monde. Songeons seulement à ceci. Un sein qui se retire soudain de la bouche d'un nouveau-né qui le tète, n'est-il pas pour ce dernier choquant, décevant, trompeur, traître en un mot? Ne rompt-il pas cette confiance spontanée que le besoin ne laisse pas de créer dans l'âme du nourrisson? La promesse que le don du sein enveloppe n'est-elle pas tissée sinon de mensonges, du moins de trahison? Comprendra que je ne puisse démêler en quelques minutes cette redoutable affaire, mais je tâcherai tout de même d'y entrer selon une voie qui me permettra au moins dégager un paradoxe ou deux. Paradoxe en tout cas sur lesquels nous pourrons nous attarder tout à l'heure de notre commune discussion. La perspective de mon questionnement sera la suivante. Aimer, mentir, trahir, la conjonction de ces trois verbes suppose clairement que nous nous risquions sur un terrain spécifique, celui de l'éthique, avec tout ce que ce domaine contient d'éléments constituants tels que la notion d'obligation, de devoir, de don, de responsabilité, de bien ou de mal que l'on infligerait à autrui, comme à soi-même, etc. Et entrons dans ce champ avec cette double question: en quoi l'amour aurait-il partie liée avec la vérité, ou pour mieux dire, la véracité? Cette question étant celle qui résulte de la conjonction aimer-mentir. Et en quoi l'amour aurait-il trait à la fidélité, ou pour mieux dire, à la foi jurée? Cette question étant cette fois issue de la conjonction aimer-trahir. Je répondrai à ceci un peu abruptement. Le mentir et le trahir concernent l'aimer, dès lors que celui-ci repose sur un engagement, une promesse, voire un serment. Ce serment, le serment d'amour, est en effet lui-même le fruit d'une promesse. Et cette promesse n'est autre qu'une promesse de fidélité. Mais fidélité à quoi? À qui? Je répondrai une nouvelle fois abruptement, la fidélité en question ne se jure pas devant le partenaire de l'amour, l'aimé, comme d'aucuns aimeraient l'induire des règles du mariage, par exemple. Non, cette fidélité très particulière se jure devant l'amour, la vérité de l'amour. Par vérité d'amour, j'entends la vérité qu'est l'amour, laquelle a la particularité d'être toujours incarnée. La vérité s'incarne dans l'amour sous la forme d'un désir qui naît de ce qu'il s'efforce d'éveiller dans le désiré, le désir de lui-même. L'amour naît de ce que le désirable devient le désirant. C'est ce que Lacan, grand lecteur du Banquet de Platon, appelle la métaphore de l'amour. Ce virage immédiatement transfigurateur par quoi, de sa condition d'objet, il devient tout d'un coup sujet. Ainsi, le désir se promet-il à lui-même dans l'amour le don de ce qui lui manque. Non pas don de ce qui manque à l'objet du désir, comme si grâce à l'amour, l'amant cherchait à relever le défi de compléter ce qui manque à l'objet de son désir, mais don de ce qui, pour manquer à son désir à lui, l'engendre en tant qu'être désirant et qu'il aspire alors grâce à l'amour à placer dans son objet. Soit donc toi que j'aime, le gardien de ce manque qui me fait te désirer et donc vivre au-delà des besoins qui peuvent être satisfaits. Fais de moi, être désirant, un être désirable. D'où la parole des amants. Sans toi, il me serait impossible de vivre, c'est-à-dire de me supporter moi-même. Sans toi, je ne ferais que survivre à moi-même, c'est-à-dire à l'extinction de mon propre désir. Dans ce jeu de placement du manque de soi dans l'autre, qui soutient les ressorts de l'amour, une dette est toujours posée. Elle est posée par le don du manque qui donne existence au désir. Le don que tu me fais, le propre don de ton manque à être, c'est par là que tu te donnes à moi. Ainsi, tu me fais don de ce qui t'est en vérité le plus cher, de ce qui est le plus toi-même. Tu me donnes le manque d'où s'engendre le désir qui te définit toi entièrement. Autrement dit, en m'aimant, tu me fais don de la vérité de ton désir. Et ce don de vérité que je reçois de toi, je le reçois en pensant qu'il faut bien que je te rende quelque chose en échange, quelque chose du même prix. Quoi ? Si tu me donnes une vérité, celle de ton désir, qui n'est autre que ton propre manque à être, je te dois aussi en retour une certaine vérité. Autant dire, je te dois sinon la vérité de ton désir, sauf en cas d'amour réciproque, du moins la véracité quant au désir que j'éprouve pour toi. C'est seulement en étant véridique dans mes sentiments que je me montrerai digne du don que tu m'as fait en m'aimant. Ce don d'amour qui, par définition, demeurera à jamais sans mesure. Voilà comment le don d'amour ouvre chez son donataire une créance infinie, une dette sans contenu déterminable. Et cette dette, il est comme imposé de devoir l'acquitter sous la forme d'un serment de véracité. Si donc dans l'amour je me sens lié, ce n'est pas à l'autre à proprement parler, mais au don qu'il m'a fait de lui-même, plus exactement à la dette que ce don produit, à la créance qu'il ouvre. Telle est l'obligation quasi insensible qui entraîne toujours l'amour du côté de la foi jurée et du serment de véracité. Même s'il demeure implicite, si rien ne se hisse au niveau de la parole, le serment de véracité existe par la seule grâce de ce placement de son propre manque dans l'autre, à quoi tient la métaphore de l'amour. Mais l'important n'est pas encore là, car quand la question de l'amour rencontre celle de la promesse, alors dans ce cas, mentir et trahir se nouent l'un avec l'autre dans le creuset d'une situation, d'un drame, que l'on peut désigner d'un mot, le parjure. Le parjure, c'est le lieu où la dimension de l'amour croise celle de l'éthique. Je voudrais vous en parler maintenant, non sans pour cela acquitter au préalable une dette envers celui qui aura consacré à la notion de parjure un texte et un séminaire en tout point remarquable, à savoir Jacques Derrida. Parjurer, c'est commettre une sorte de mensonge. C'est accomplir un faux témoignage. C'est tromper, soit en trahissant sa parole, soit en violant son serment de dire la vérité. En ce sens, c'est tromper la confiance que l'on voudrait que l'autre nous accorde quand nous lui disons quelque chose. Car tout ce qu'on lui dit se trouve toujours implicitement marqué du sceau de la vérité, sinon l'autre à qui l'on s'adresse n'aurait rien à y entendre. Comme explique Derrida, tout mensonge est un parjure, tout parjure implique un mensonge, l'un et l'autre trahissent une promesse, c'est-à-dire un serment au moins implicite, je te dois la vérité dès lors que je te parle. Or, dans l'amour, on parle. On ne peut faire autrement que de déclarer son amour. Non seulement on fait toujours l'amour en parlant, mais il arrive que cette parole renouvelle sa toute première déclaration d'amour, celle qui a scellé le serment de véracité des amants. Il n'est pas un mot dit à l'autre qui n'entend pas témoigner à sa façon, plus ou moins directe, plus ou moins grave, de la réalité de son amour. C'est dire que le serment d'amour se tient comme tapis derrière toute déclaration d'amour. Ce serment disant chaque fois, je te dois la vérité quant à l'amour que je te déclare ici et maintenant. C'est cet engagement tacite quant à l'amour que je te. C'est cet engagement tacite à dire la vérité, à faire de sa déclaration d'amour une vérité, qui arme la confiance dont se témoignent les amants. Et cela indépendamment de sa possible traduction ultérieure, car ce n'en est jamais qu'une traduction ultérieure. En termes de « je te serai fidèle, je n'aimerai personne d'autre que toi, tu es la seule avec qui je désire faire l'amour, etc. » Ce que j'appellerais le serment d'origine est donc celui qui procède d'une déclaration d'amour originelle. Je ne te trompe pas en te disant que je t'aime. Mais dans ce cas, précisément, que veut dire parjurer ? Cela signifierait se rendre capable d'un faux serment. Comme je l'ai laissé entendre, le serment repose sur une promesse dont le serment exprime le caractère obligatoire ou contraignant. Quelle est donc cette promesse ? Je l'ai dit, la promesse de se montrer digne du don qui m'a été fait, parce que c'est à lui en définitive, c'est à ce manque qui m'a été donné par l'autre, comme le mien, que je dois être le désirable que je suis. Le serment qui procède de la promesse est par conséquent celui d'éviter le parjure, d'éviter de tromper celui qui m'a fait le don de son amour, qui est celui de mon désir. Or justement, parce que nous sommes d'abord et surtout des êtres temporels, des êtres dont l'être s'inscrit dans le temps au point d'être le jouet du temps lui-même, l'engagement à la véracité doit pouvoir s'étendre à tout ce temps dans lequel l'amour si dur continue de s'éprouver. C'est bien en fonction de cette épreuve cruciale que fait l'amour dans le temps et par rapport à lui que doit chaque fois se mesurer le parjure, le désaveu, le reniement, l'abjuration qui se profile dans tout mensonge et ultimement dans toute trahison. Évidemment, et on l'aura compris, je ne parle pas ici, certains peut-être le regrettent, du mensonge qui consiste à dire à sa femme que l'on est allé au cinéma quand on a passé l'après-midi dans le lit de sa maîtresse. Non, je parle de tout autre chose. Je parle du fait que la signification structurelle du serment d'amour, c'est-à-dire de la parole donnée à l'autre comme parole de vérité, témoignant de la réalité présente du sentiment éprouvé à l'instant même où cette parole est dite, que cette signification, donc, consiste, pour reprendre les termes de Derrida, à s'engager à ne pas se laisser affecter par le temps, à rester le même au moment B, quoi qu'il arrive, que celui qui jure antérieurement au moment A. Cette négation relevant du temps est l'essence même de la fidélité, du serment et de la foi jurée. Ainsi, ma fidélité repose-t-elle sur le fait présomptif que je serai demain le même que celui qui t'aime aujourd'hui. Mais n'est-ce pas fonder la fidélité à l'égard de l'être aimé sur l'existence postulée et combien problématique d'une identité de soi avec soi-même ? C'est ce que suggère de penser Derrida. Mais ne faudrait-il pas plutôt penser que ce qui, au nom de la promesse, ne se laisse pas affecter par le temps, n'a aucun rapport avec les protagonistes de l'amour, ni le désirant, ni le désiré. Qui, du reste, ignore qu'il est un être temporel, qui change constamment, en tout cas qui ne peut prévoir ni ce qu'il sera, dans quelque temps, ni ce qu'il éprouvera à l'avenir. En fait, ce qui fait l'objet du serment de fidélité, ce que l'on promet comme ne devant pas être affecté par le temps, ce n'est ni soi ni l'autre, mais un tiers, engendré par l'amour de ces deux. Ce couple que l'un et l'autre forment dans l'amour et par lui, ce couple qui, le temps que dure leur amour, les réinvente l'un et l'autre comme êtres de désir. Or, ce temps de l'amour n'est pas vraiment du temps. Il est le présent vivant du pour toujours. Si la négation relevant du temps est l'essence de la fidélité, du serment et de la foi jurée, c'est bien parce que cette négation forme l'étoffe même du pour toujours, lequel est l'attribut du seul fruit de la déclaration d'amour, de ce couple qui, en position de tiers par rapport à l'un comme à l'autre, n'existe qu'en vertu de ses désirs croisés qui n'existent que par lui et en lui. C'est là qu'une question importante se pose. Qu'est-ce qui, dans l'économie serrée de la promesse et du serment, peut encore donner lieu au mensonge et ultimement à la trahison ? Je dirai à cet égard trois choses et je conclurai là-dessus mon propos. Je dirais premièrement que le mensonge, s'il y en a, apparaît toujours après que, ou une fois que, la promesse du « je t'aime pour toujours » a été faite. Deuxièmement, je dirais qu'il existe, au regard de la promesse en question, une illusion constitutive de l'amour. Le « pour toujours » de la promesse, de « A », s'entend le plus souvent par B comme un toujours. C'est alors que ce dernier considère le présent vivant de l'amour comme un présent constant. Cette illusion repose sur l'existence même du temps, parce que la promesse a lieu dans le temps. Toute promesse, en dépit du fait qu'elle vise un pour toujours, promet immanquablement un toujours. Évidemment trompeur, puisqu'il se tient aux antipodes. En ce sens, la promesse apparaît comme étant toujours déjà de l'ordre du mensonge, de la tromperie. En ce même sens, il est aussi toujours exigé de la promesse qu'elle soit tenue par la réitération régulière, ritualisée, du serment originairement donné. Dis-moi que tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes toujours, etc. Je dirais troisièmement que tout cela est extrêmement compliqué. Car ce qui, en l'occurrence, est fauteur de complications, c'est le temps du parjure. En effet, de deux choses l'une. Ou je mentais quand je déclarais originellement mon amour, parce que je savais déjà que le « pour toujours » enveloppé dans mes déclarations ne pouvait pas s'accommoder d'un « toujours », celui auquel l'autre, en revanche, pouvait peut-être croire en s'illusionnant quant à ma déclaration. Ou je n'ai pas menti en déclarant originellement mon amour, ayant été fidèle à mon serment de véracité, mais il se trouve que depuis, j'ai changé, je n'éprouve plus d'amour. Ce n'est pas que je reviens alors sur ma promesse, c'est seulement que je romps avec ce toujours que l'autre a entre-temps, et peut-être dès le commencement, entendu illusoirement dans le pour toujours de la promesse. Je romps donc non pas avec mon serment de véracité, mais avec l'illusion que ma déclaration d'amour originelle avait possiblement suscité. Et cela, je le redis, parce que j'ai entre-temps changé et parce que mes sentiments envers l'autre ont changé. Il y a donc ou le déjà du mensonge ou l'après-coup de la trahison. Et toujours entre les deux, la fabrique d'une illusion. Il consiste à recevoir le pour toujours de la promesse comme s'il s'agissait d'un toujours de la déclaration. L'illusion du toujours que suscite la promesse, à quoi tient-elle en dernier ressort? Autrement dit, qu'est-ce qui, au moment de la déclaration d'amour, donc de la promesse d'un pour toujours, nous fait oublier que le changement arrivera un jour ou l'autre? Je répondrai aussi abruptement que les autres fois, parce que le temps nous est compté, je répondrai rien d'autre que la nature même de l'amour. Car enfin, comment doit se définir l'amour pour qu'il inclue jusque dans son concept l'idée de promesse, de foi jurée, de serment de véracité? Je l'ai dit, il doit être défini comme un don. Le don fait au désir de son propre manque comme étant venu de l'autre, comme apporté par l'autre, parce que toujours déjà transposé dans l'autre. Un don qui n'est jamais sans susciter un sentiment de dette. Mais renversons maintenant la question. Pourquoi faut-il en passer par la promesse, la foi jurée, le serment, l'engagement, quand il s'agit d'amour? Si je renverse la question, c'est parce qu'en vertu de ce renversement, la trahison va en fait complètement changé de sens. Au lieu de se présenter à nous comme l'antonyme de l'amour, ce que j'ai dit au tout début, comme ce qui tue l'amour, la trahison apparaît désormais comme ce qui caractérise l'essence même de l'amour. Et là réside peut-être le paradoxe suprême de l'amour. Je m'explique. Je t'aime pour toujours. Même si je ne t'aimerai pas toujours, même si je ne t'aimerai plus demain, tel est le sens de la déclaration d'amour originelle, tel est le sens de la promesse, je t'aimerai pour toujours, cette promesse que B entend de A, même si ce dernier n'a proféré qu'un seul petit « je t'aime ». Tout sacralisé qu'il soit par un implicite serment de véracité. Et cependant, si, dans une déclaration d'amour, on doit aller jusqu'à jurer de sa foi, ne reconnaît-on pas implicitement que la promesse, le pour toujours, est quelque chose qui doit être tenu, donc quelque chose qui ne peut pas naturellement être tenu, que le destin de cette promesse est d'être généralement et constamment trahi. Certes, et on a vu que cela tenait à l'illusion qui substitue au pour toujours un toujours qui n'est rien de moins que trompeur et mensonger. Nul doute que le « nous » des amants, le « nous » que forment les amants, est le fruit d'une déclaration d'amour originelle, fondatrice, disons même sacramentaire. Il suppose une identité et une continuité entre le « je » qui a déclaré originellement son amour et le « je » qui doit encore pouvoir répondre de cette déclaration une fois que cette déclaration a été originellement faite. Mais pourquoi lui faut-il encore en répondre? Qu'est-ce qui justifie cette responsabilité? C'est le fait qu'entre les deux « je », entre le « je » qui déclare originellement son amour et le « je » peut-être déjà plus du tout amoureux, qui doit tout de même conserver la mémoire de sa déclaration d'amour, il y aura toujours le temps qui passe et donc la possibilité toujours ouverte d'un changement de sentiment. Or, telle est justement l'énigme impénétrable de l'amour, qu'au moment de la déclaration d'amour de A à B, c'est la possibilité même d'un changement de sentiment qui est toujours niée. Pourquoi ? Parce que la déclaration se fait dans le présent vivant de l'amour et que celui reste sauf de toute altération due au passage du temps. Et si bien que la déclaration se voit toujours faite au nom d'amour, c'est fatal. Autant dire que la déclaration d'amour se fait toujours devant l'éternité. Une éternité postulée à laquelle, tout du moins, on aspire. Et par éternité, je n'entends pas cette durabilité constante que suggère une phrase comme « je t'aimerai toujours ». Mais tout différemment, cette absolue sortie hors du temps que vise idéalement le « je t'aime pour toujours ». D'ailleurs, on remarquera que la première phrase « je t'aimerai toujours » est au futur. Et c'est en ce sens que la promesse est elle-même illusoire, mensongère ou trompeuse, car nul ne peut prévoir l'avenir. Alors que la deuxième phrase, « Je t'aime pour toujours » est au présent. Et elle est vraie de cette vérité dont s'enveloppe l'expérience de l'amour quand il s'éprouve chaque fois, ici et maintenant. Mais ne doit-on pas reconnaître également que pour conjurer cette inéluctable tromperie ou mensonge, c'est-à-dire pour jurer que le parjure de la promesse illusoire du « toujours » n'aura pas lieu, ou plutôt qu'il n'a pas toujours déjà eu lieu, il est toujours besoin d'un serment, d'un engagement solennel, sacral, sacramentaire, je dis. Telle est en effet la véritable raison d'être du serment de véracité, quand il se trouve être dûment prononcé. Mais telle est aussi sa folie. Car il est dément de vouloir jurer que l'abjuration n'aura pas lieu, alors même qu'elle a toujours déjà eu lieu. Nul ne peut raisonnablement s'engager à assurer la pérennité d'un toujours. La nécessité du serment de véracité consiste dans le fait que l'abjuration de la promesse, le parjure, a toujours déjà eu lieu dans la promesse même, quand elle suscite l'illusion du toujours, mais que c'est précisément ce toujours déjà que nous oublions dès lors que nous aimons. L'amour a ceci de particulier qui nous fait oublier que nous sommes les jouets d'une illusion qui nous conduit à prendre le pour toujours pour un toujours. Il nous le fait oublier en nous faisant croire à l'impossible. Car il est impossible que le pour toujours puisse se mesurer à l'aune d'un toujours. En ce sens, l'amour nous fait croire que nous pouvons, grâce à lui, faire fi de la réalité du temps et de ce qu'il transforme. La multiplicité des temps, des instants, leur essentielle discontinuité, l'interruption sans merci que le temps inscrit en moi comme moi. L'amour, en effet, jure de faire mentir les lois de la nature, celles qui placent l'ensemble des phénomènes dans les dépendances insurmontables de l'espace et du temps. Adossé à une première promesse où il y va pour toujours, l'amour nous fait subrepticement promettre l'impossible à tenir, à savoir le toujours. Certes, les promesses de cet ordre n'engagent que ceux qui les écoutent, et c'est justement de cette écoute-là que naît chaque fois l'illusion de l'impossible, l'illusion du toujours. Mais pour autant qu'il déroge au temps par la promesse du pour toujours, l'amour se présente également comme la promesse de l'impossible. Et c'est ce qui fait que rien ne le vaut, qu'il échappera même à tout jamais à toute dévalorisation. Alors pour finir, si l'on devait retenir de ce que j'ai dit quelque chose, je dirais ceci. C'est dans l'écart temporel entre le déjà du mensonge et l'après-coup de la trahison, c'est dans cet écart de temps qui donne son site à l'illusion d'un toujours subrepticement venu recouvrir le pour toujours inhérent structurellement à la déclaration d'amour originel, c'est là, dans cet entre-deux de la promesse, que les deux verbes, mentir et trahir, en viennent à se nouer l'un avec l'autre, et qui se distinguent également l'un de l'autre dans leur rapport au troisième verbe, aimer.